Charente.
LFM. L'invité du 6-9.
Bien souvent et trop souvent dans un couple, c'est uniquement vers la femme que l'on se tourne en cas d'infertilité. Heureusement, la parole masculine se libère sur ce sujet. Bonjour Jonas Schneider.
Bonjour.
Alors tu as réveillé les auditeurs d'LFM pendant de nombreuses années ici à notre place. On te retrouve actuellement sur les antennes de la RTS. Et tu viens de publier aux éditions Favre les 20 questions sur la fertilité masculine que presque personne n'ose poser. Et l'idée de faire ce livre, elle est venue lorsque tu t'es rendu compte que même pour un médecin spécialiste, le sujet semblait tabou.
Oui, parce que j'ai découvert ça d'abord à la première personne de mon cas précis. Et puis le médecin qui m'a ausculté m'a tout de suite dit « Ah bah ça en tout cas, vous en parlerez jamais à la télévision ». Et je me suis dit, tiens, c'est marrant que le médecin qui fait ça toute la journée, dont c'est le métier, etc., il ait à ce point-là remarqué que c'était tabou et que les hommes qui défilaient dans son cabinet, en général, n'en parlaient jamais à personne et encore moins à la télévision. Et j'ai un peu creusé ce tabou dans mon entourage, j'ai un peu creusé ce tabou aussi dans ce que les médias produisaient et je me suis rendu compte qu'il manquait vraiment un livre, par exemple, sur la fertilité des hommes.
Comme tu t'es intéressé à la question, comment t'expliques que ce sujet soit aussi tabou encore aujourd'hui ?
C'est au croisement de plein de choses. Déjà, la virilité, c'est un peu tabou en 2026, et c'est polémique, ça pose pas mal de questions. La sexualité, de manière générale, on n'en parle pas ouvertement. Et puis, il y a d'autres polémiques liées à la fertilité masculine. Il y a les questions d'égalité, mais il y a aussi les questions de l'environnement, de l'écologie, parce qu'en fait, tout ça est très lié. Donc, c'est une espèce de super polémique ou de super tabou, en fait. C'est au milieu de plein de choses qui pose question.
Et donc, tu as fait plein de recherches sur le sujet. Une des premières infos que tu as récoltées, c'est que les hommes d'aujourd'hui produisent deux fois moins de spermatozoïdes qu'il y a 50 ans.
Ouais, ça, c'est une méta-analyse qui le dit. Donc, c'est une grande étude qui le dit. Les médias, à ce moment-là, ont parlé de spermageddon. En fait, on voit en analysant un peu plus précisément les données que ce n'est pas si facile que ça, notamment parce que les échantillons de sperme qui ont été analysés le sont généralement parce qu'ils viennent de cliniques de la fertilité. Donc, en gros, c'est des hommes qui ont des problèmes de fertilité dont on va analyser le sperme. Alors là, évidemment, les résultats ne sont pas très bons. Mais effectivement, il y a des études plus sérieuses, notamment une étude suisse qui est faite sur les conscrits, donc en gros les recrues du service militaire. Et on s'est rendu compte là qu'effectivement, il y avait une baisse, peut-être pas de moitié, mais il y avait une baisse de la fertilité des hommes et que c'était inquiétant, que ça posait des questions.
Et chiffre encore plus frappant, dans 40% des difficultés à avoir un enfant, c'est à cause de l'homme, alors qu'on parle ouvertement de l'infertilité plutôt féminine.
Oui, c'est ça. Quand on va consulter et qu'on est un couple, souvent le regard est d'abord sur la femme. Et puis encore pire, dans notre entourage, quand on parle de difficultés à avoir des enfants, tout le monde part du principe que c'est la femme. C'est pas nouveau. Henri VIII, petit cours d'histoire. Henri VIII essayait d'avoir des enfants et des enfants masculins. Et à chaque fois qu'il n'arrivait pas à avoir un enfant avec une femme, il faisait décapiter la femme. Et avec le recul, les historiens, les scientifiques ont étudié le cas d'Henri VIII, notamment avec du matériel génétique, et se sont rendus compte que c'était lui qui était totalement infertile. Et donc, en fait, le cas d'Henri VIII, il n'a pas beaucoup évolué aujourd'hui. On ne décapite plus les gens, mais on commence quand même par se dire que c'est sûrement la femme qui est coupable.
Et quand on est en couple et qu'on essaie d'avoir un enfant, à partir de combien de temps est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter un petit peu ?
Ça dépend de son âge. Les médecins recommandent en général environ une année. Voilà. Environ une année, c'est le seuil de la consultation. Donc en gros, on va voir un ou une spécialiste au bout d'une année. Moi, je préconise déjà les premières semaines de se renseigner et d'avoir des infos. Parce qu'en fait, on a très peu d'informations. Donc, avant de ne pas y arriver, dès le moment qu'on essaye, bah, renseignons-nous et puis essayons de découvrir qu'est-ce qui booste ou pas notre fertilité de femme et d'homme.
Alors maintenant, parlons de ces facteurs qui influencent la qualité du sperme. Il y en a plusieurs.
Oui, il y a des choses anodines. Je parle beaucoup des sièges chauffants. La chaleur, c'est quelque chose de très problématique pour les hommes. Si les testicules sont en dehors du corps, c'est pour une raison. C'est parce qu'ils doivent être au frais, ils doivent être en dessous de la température corporelle. Donc, les sièges chauffants, les jeans serrés, les bains chauds, les jacuzzis, tout ça, c'est problématique pour la fertilité des hommes. Et donc, si on essaye d'avoir un enfant et qu'on n'a pas, par exemple, cette information toute simple, ben on a moins de chances d'y arriver.
Et de manière plus générale, Jonas Schneider, on évoque de plus en plus les fausses couches. Et alors, quelle est la part de responsabilité de l'homme ? Tu l'évoques aussi dans ce livre.
Oui, ben la fausse couche, ça peut être, et c'est souvent et surtout un problème génétique. Et puis, les gènes, ils viennent à moitié de l'homme, à moitié de la femme. Et donc, aussi la fausse couche est à peu près à moitié en raison de problématiques de l'homme et à l'autre moitié en raison de problématiques de la femme. Et donc, la fausse couche n'est pas que un problème féminin. Ça va se passer évidemment que dans le corps de la femme. Ça va occasionner des souffrances physiques à la femme. Mais la responsabilité de la fausse couche est partagée et ça peut être symptomatique d'un problème chez l'homme et pas chez la femme.
Nous ici, on se lève tôt. Le sommeil a un impact, le stress aussi.
Oui, alors le sommeil, c'est sûr que ça a un impact. Le stress aussi, mais le stress, c'est très particulier. On s'est rendu compte dans les études et avec les chercheurs avec lesquels j'ai discuté et fait ce livre, qu'une des périodes où on était le plus fertile en tant qu'homme, c'était juste après un très gros stress. Donc en fait, quand on a un stress et qu'on s'en sort de ce stress, probablement pour des raisons d'évolution, c'est le moment où on est le plus fertile. Donc il suffit pas de dire « Ah, il faut vivre une vie sans stress, dans la plénitude et la méditation la plus complète pour avoir des enfants », c'est sûrement pas ça la solution. Mais ce qui est sûr, c'est que le stress chronique tous les jours et les grandes périodes de stress, c'est pas le meilleur moment pour concevoir un enfant. D'ailleurs, dans nos vies non plus, si on est déjà hyper stressé, c'est sûrement pas le meilleur moment d'accueillir un enfant. La nature est assez bien faite, c'est pas le moment où on est les plus fertiles.
Les 20 questions sur la fertilité masculine que presque personne n'ose poser. Finalement, à qui s'adresse ce livre ?
J'aimerais d'abord l'adresser aux hommes, à tous les hommes qui veulent des enfants. Le but n'est pas d'acheter ce livre parce qu'on est infertile. D'ailleurs, infertile, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, quand on se préoccupe de sa fertilité, on achète ce livre. J'aimerais aussi que les femmes le lisent parce que j'aimerais aussi qu'elles soient informées de la part de responsabilité du couple et qu'on arrive à mettre davantage la lumière sur le couple et un peu moins sur la femme. Et ça passe par une meilleure information des hommes et des femmes sur la fertilité des hommes.
On connaît ton rapport à l'image aussi. Est-ce qu'on doit s'attendre à un film ?
Pourquoi pas ? Je pense qu'il faut en parler un peu partout, tout le temps. Nous, entre nous, on doit en parler, on doit dédramatiser, on doit s'amuser de cette thématique. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de lourdeur. C'est comme ça qu'on sera mieux informé sur la fertilité des hommes. Et pourquoi pas aussi en faire un film ? C'est vrai, un film documentaire, ça pourrait être assez intéressant. Ça n'existe pas vraiment non plus, ouais.
Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux hommes qui nous écoutent ce matin, Jonas ?
Acheter mon livre.
Et plusieurs exemplaires.
Exact, et au moins une dizaine d'exemplaires pour offrir à d'autres hommes. Non, j'aimerais leur dire, on vous a toujours fait croire que c'était tabou, que c'était problématique. On vous a même fait croire que si vous étiez moins fertile, vous étiez moins homme. Et ça, c'est des conneries. Il y a même des études qui prouvent le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des signaux extérieurs d'extrême virilité qui sont aussi des signaux extérieurs de basse fertilité. Donc la virilité et la fertilité, ça n'a rien à voir. La performance au lit et la fertilité, ça n'a rien à voir. Et donc ça remet rien en question de qui vous êtes. On peut prendre ça avec distance, avec humour, mais il faut s'informer parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir et qu'on ne nous a jamais dites.
Et aux femmes ?
Aux femmes, j'aimerais leur dire à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez savoir et qu'on ne vous a jamais dites. Et puis j'aimerais redire que c'est quelque chose qui se joue en couple. La fertilité. Et que c'est la fertilité du couple et que la fertilité de l'individu est moins intéressante que la fertilité du couple. Et donc, quand je dis ça, on me dit « Mais alors, pourquoi tu as écrit un livre sur la fertilité masculine et pas la fertilité du couple ?» Ben, c'était plutôt pour rééquilibrer. Si les choses étaient équilibrées, je pense qu'on n'aurait pas besoin de parler spécifiquement de la fertilité masculine. Mais là, on a tellement parlé de la fertilité des femmes qu'il fallait tirer une balle dans l'autre sens et puis avoir la fertilité des hommes. Et ensuite, en fait, le vrai message, c'est de se dire que c'est la fertilité du couple qui est intéressante et que c'est une équipe de deux personnes qui vont procréer et que donc c'est cette équipe qui doit être fertile. C'est vrai aussi pour l'âge. On est souvent très centré sur l'âge de la femme. En fait, il y a une étude que je cite dans le livre qui a démontré que c'était l'âge du couple qui était important pour la fertilité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une femme plutôt âgée aura de la facilité à avoir des enfants avec un homme plutôt jeune, de même qu'un homme âgé devra avoir une femme jeune pour réussir à avoir des enfants.
Les 20 questions sur la fertilité masculine que presque personne n'ose poser aux éditions Favre, signé Jonas Schneider, qu'on remercie.
Merci beaucoup, merci
à bientôt.
Pour votre invitation.